Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, nous vous proposons un thème et un invité. Aujourd'hui, commençons par découvrir ensemble la personne qui va nous accompagner pour quelques jours. Pour participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous. Allez, c'est parti, on lance le thème de la semaine avec notre invité. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète par Ohana. En parlant d'Ohana, justement, mon co-animateur et le fondateur de la marque. Salut Olivier.
Salut Hermano.
Et nous avons un invité cette semaine qui va pouvoir remettre, si ce n'est les pendules à l'heure, au moins nous aider à régler aussi nos vélos, à savoir Ivan Veloso. Salut Ivan.
Salut tout le monde.
Ivan, bon, j'ai très rapidement parlé de toi, mais on va te laisser la parole pour ce premier épisode de la semaine. Notre tradition, c'est justement de donner le micro à nos invités pour qu'ils se présentent, pour qu'on en sache plus sur eux. Donc Ivan, le micro est à toi. Dis-nous tout, quel âge as-tu, que fais-tu dans la vie et que fais-tu dans le sport?
Voilà, donc moi je suis Ivan Veloso, je suis brésilien, je suis né au Brésil. Je suis parti du Brésil en 2008 quand je suis venu en Belgique. Pour la première fois, donc c'est la deuxième fois que j'habite en Belgique, maintenant je suis à Bruxelles. Et dans la première fois, moi, avant, je faisais beaucoup d'escalade, je faisais beaucoup de VTT, mais je n'avais jamais couru, et j'avais pas de vélo de route, donc je savais pas nager, nager longue distance. Et donc j'ai travaillé pour le groupe Engie, c'est une société de génération d'énergie électrique, et là, j'avais mes collègues qui couraient autour du midi. Donc, la première fois que je suis sorti avec eux, donc je commençais à parler avec eux, je venais d'arriver au pays, et j'avais 30 ans. Maintenant, j'ai 43, presque. Et là, je vois mes collègues qui courent autour du midi, qui sortent à courir. Je viens avec eux. Est-ce que je peux courir avec vous? J'ai envie de faire quelque chose. Et la première fois, en fait, ils couraient tellement rapide que moi, j'ai resté dans le bois. Et j'ai dû prendre le train pour revenir au travail. Et j'avais pas même d'argent, donc j'ai pas payé le train. Donc c'était ma première expérience. Au bout de 10 km, j'étais mort. Et voilà. Donc ces jours-là, j'ai appris que courir, c'était pas vraiment un truc facile et que je devais apprendre. Donc j'ai commencé tout petit, tout doucement, à courir, à nager, à faire des multisports. Donc ici en Belgique, on a de ce qu'on appelle des raids. Donc raid Namur, raid Ophalys, raid. Et là, j'ai commencé petit à petit à me lancer dans la course à pied. Donc ça, c'était année 2009-2010. Et voilà. Donc après avoir apprendre, il fait de 20 km quelquefois en dessous de 2 heures, que c'était le meilleur que je pouvais faire. J'avais un collègue qui était triathlète, Tim, il était vraiment quelqu'un qui m'a fait inspirer. Donc je l'ai regardé, il était tout fort, il courait super rapide, il gagnait toutes les compétitions. Et en fait, sortir à courir au temps de midi, pour lui, c'était quelque chose de facile. Autant que pour moi, c'était quelque chose vraiment d'incroyable, sortir pour courir 10 km. Donc, je me suis dit, voilà, triathlète, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que je vais essayer ça.
Lui ne devait même pas prendre le train pour rentrer.
Non. Lui, il était vraiment... Et en fait, même s'il neigeait, il sortait avec son short. Donc, je me suis dit, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais là, c'était d'abord une inspiration au niveau vraiment... le gars qui était vraiment quelqu'un qui courait bien, qui courait rapide, tout ça. Après, j'ai découvert des autres inspirations que je vais raconter un peu pendant l'histoire. Donc, moi, en bref, 2010-2011, j'ai commencé à faire des triathlons. J'ai rentré au Brésil en 2011. Et là, j'ai découvert une série qui s'appelle Xterra et qui c'est vraiment hyper intéressante. Donc, c'est normalement 1000-1500 mètres natation, 30 km vélo et 10 km course à pied en trail. Et en fait, je tombais amoureux de ce type de triathlon. Je commençais à faire, on a au Brésil 14 courses Xterra. Et 2011, j'ai fait 10 des 14. Non, et donc moi j'ai terminé champion brésilien dans ma catégorie 30-34 ans, mais c'était pas parce que j'étais le meilleur, c'est parce que j'étais assez souvent dans la compétition, donc j'ai accumulé des points et donc, avec ces championnats, j'ai pris la première fois une place pour aller au Hawaï. Donc, 2011, j'étais au Xterra Hawaï, où j'ai pu vraiment regarder qu'est-ce que c'était le sport, d'où ça venait, quel type de gens participent à ce genre de choses. Et c'est la première fois que je m'ai découvert entre plusieurs athlètes, donc un millier d'athlètes qui aimaient bien parler de vélo, des voyages et d'entraînement. Donc, moi, je sentais super bien parce que tout le monde parlait de vélo, de voyage, d'entraînement. Et donc, c'était ma première expérience. On était à Maui, 2011. Il y avait des gens, le triathlon te laisse l'opportunité d'être aussi avec des pros. Donc, j'étais avec plusieurs personnes très connues dans le marché. On voit toutes les marques de produits, toutes les choses qu'ils font sur mesure pour les triathlètes. C'est la première fois qu'on voit un skin suit, un speed suit vraiment fait pour l'extérieur. Donc, c'était super intéressant en tant que tourisme aussi, un super bon voyage. 2011. Donc, 2011, j'ai commencé à faire des etc. Mais j'ai fait aussi un semi-ironman pour la première fois avec mon vélo de route. Et quelqu'un m'a prêté un tri-suit, un tri-fonction, hein, comme on dit ici. Je connaissais pas ça. C'est la première fois que je nage aussi avec un wetsuit. Et voilà, donc c'était Florianopolis, semi-ironman. Très intéressant aussi. C'est notre esprit, c'est le vélo qui là. Donc, le triathlète n'aime pas de vélo qui ça monte, qui ça descend. J'ai commencé avec ça. Donc, 2011, c'était mon premier semi-ironman. En fait, aujourd'hui, je sais même pas combien j'ai déjà fait. J'ai déjà fait semi-ironman. J'ai déjà fait le Chili, Pucón. J'ai déjà fait la Colombie à Cartagena. J'ai fait Équateur. C'est une très chouette course à Équateur parce que c'est à Guayaquil. Et là, tu peux aller voyager à Galapagos. Donc, en 2018, on est allé à Galapagos avec la famille. Et voilà, donc j'ai habité au Pérou pendant 7 ans. Et là, il a vraiment une culture de faire des semi-ironman. Il avait plusieurs courses qui n'étaient pas dans le circuit ironman, mais qu'il y avait de mini-circuits entre le Chili et le Pérou. Il y en a pas mal. Le fait de faire de triathlon, ça m'a aidé toujours à faire des amitiés. Donc j'arrivais déjà avec mon vélo. Je voyais quelqu'un qui roulait. Attends, on va où? C'est ça. C'est le bout de faire du sport, c'est faire des amis aussi, donc voyager. Et c'est pour ça que je suis dans cette équipe.
Et puis c'est très latin ça aussi. Enfin, quand je dis latin, c'est Amérique latine. C'est vrai que on se fait vite, on se fait d'autant plus vite des amis en Amérique latine qu'en Europe par exemple. C'est beaucoup plus facile effectivement de dire ah bah tiens,
Ouais, mais je suis
un mec qui
d'accord,
fait
mais
du
je pense
vélo.
que le vélo, ça aide aussi, hein.
Oui, bien sûr, ça aide. Mais je pense que non, je dis c'est beaucoup plus facile de nouer des liens, je trouve, en Amérique latine. Enfin, j'étais encore en Colombie au mois de décembre et j'ai rencontré un gars parce qu'on montait le même col, plus ou moins la même allure, donc on s'est fait des relais. Et en fait, arrivé en haut du col, sur le temps de la descente, ce qui n'était pas énorme non plus, on est devenu super potes et au point que le mec m'a prêté son vélo après pendant 6 semaines, enfin son deuxième vélo pendant 6 semaines, alors que j'étais un parfait inconnu, tu vois. Donc c'est quand même incroyable et c'est vrai que je pense que c'est les trucs que forcément, ça rapproche déjà en Europe et en Belgique ou en France, mais quand t'es dans ces pays-là, c'est encore plus fort, je trouve.
Moi, je pense que ça dépend de quel pays on parle en Europe. Regarde, moi, je suis italien. Bon, en Italie, on est très ouvert aussi.
Voilà.
Non, allez, j'arrête, j'arrête. Je te concède que en Amérique latine, ça a l'air d'être beaucoup plus sympa.
Ouais, non, je pense partout, hein. Et en fait, toi, tu me parles d'Italie, j'ai envie de connaître le lac de Gardia. J'ai vu là maintenant la championne d'Exterra cette année qui faisait son interview. Et arrière, il avait le lac, tout le monde faisait du kitesurf. Donc, ça donne envie, hein, d'y aller. C'est vraiment l'esprit.
Donc là, Ivan, tu nous as fait une belle présentation de toi. On a passé en revue une petite dizaine d'années. Bon, pas les dernières années, mais déjà une première partie de la dernière décennie. J'aimerais quand même qu'on revienne un peu plus sur le début. Tu nous as dit que quand tu étais jeune, tu as fait pas mal de sport, un petit peu, enfin, tous aussi diversifiés les uns que les autres. Que quand tu es arrivé en Belgique, tu connaissais pas tout à fait la course à pied, tu savais pas nager, tu connaissais pas le vélo. Et tu nous as expliqué que finalement, tu t'es mis au triathlon par l'entremise d'un ami qui était aussi triathlète et que tu admirais beaucoup. Malgré tout, d'où t'es venu ce déclic, cette idée de allez, j'y vais, je passe la porte du club ou je vais m'entraîner avec Tim pour aller faire du triathlon. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller voir de l'autre côté de la falaise, pour ainsi dire?
Ouais, donc ouais, t'as bien touché un mot intéressant, la falaise. En fait, moi, j'ai fait 14 ans d'escalade avant de commencer à courir. Donc, c'était avant, quand j'habitais au Brésil. Quand j'arrivais en Belgique, le temps ici n'aide pas vraiment à faire l'escalade parce qu'il pleut tout le temps. Et quand il fait beau, tout le monde va à la falaise. Donc, c'était pas vraiment la même chose. Donc, j'ai commencé à réduire l'escalade et En fait, j'ai remplacé ça par la course à pied. Après, pour la natation, je faisais déjà beaucoup de VTT. Donc, j'ai participé du championnat du monde à Offalise, ici en Belgique, quand je suis arrivé, mais je ne faisais pas de vélo de route. Donc, c'était un peu le remplacement. Une chose intéressante, quand les gens me demandent, toi, tu es triathlète, je ne dis pas que je suis triathlète. Hein. Je préfère dire que je suis multisportif. Donc, j'aime bien faire du kitesurf, j'aime bien faire de l'escalade, j'aime faire de rando. J'aime bien tout ce qui est ce type d'exploration. Au Pérou, bien sûr, on a fait pas seulement de triathlon, on a fait des montagnes. Hein. Il y a la Cordillera Blanca, donc on a fait des 6000 mètres. Je fais grimper l'Aupamayo, c'est des super chouettes montagnes qu'on a là-bas. Par contre, une chose intéressante, c'est qu'avoir le physique de triathlète, ça aide pour toutes les autres choses. Donc, moi, j'étais avec tous mes collègues qui faisaient des balades sur aux expéditions sur les montagnes. Moi, j'étais vraiment hyper à l'aise parce qu'on a un niveau physique au-dessus de la moyenne. Et ça, c'est vraiment chouette d'avoir. Ça, c'est vraiment quelque chose que, si toi, tu me demandes aujourd'hui, après avoir fait... Moi, j'ai raconté seulement la moitié de ma carrière sportive. Il faut que je montre la carrière aussi, mais l'autre partie aussi. Mais donc, avoir ce niveau, ça aide à faire toutes les autres choses. Hein. Ça aide à être plus dynamique au travail. Ça aide beaucoup dynamique dans la vie personnelle, la vie sexuelle. Tout ça, ça aide. Hein. Je peux donner des exemples, plusieurs. Mais voilà, on va aller au point. Donc, il y a une course que je n'ai pas encore parlé, mais qui c'est très chouette que j'ai fait. Et je pense que c'est le bon moment de parler de ça. Et donc, moi, je faisais des semi-aéromains à gauche à droite quand j'étais au Pérou. Et 2014, je me suis inscrit. Ben, je n'ai pas un niveau, j'ai mon niveau, mais je n'ai pas un niveau pour être qualifié à Kona. Il faut être vraiment franc pour ça, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très difficile. Surtout aux alentours des 35 et 45 ans, c'est très, très compétitif, c'est très difficile. C'est des gens qui font au-dessus de 9 heures pour un aéromain. Donc, moi, je ne sais pas m'entraîner pour être qualifié à Kona. Par contre, 2014, je me suis inscrit dans la loterie qu'il y avait, qui ça n'existe pas non plus, mais il y avait une loterie qui en payait $50. Et donc là, je n'ai pas gagné. 2014, je n'ai pas gagné, tant pis. Donc 2015, je me suis dit, peut-être c'est le bon moment d'essayer de faire un Ironman. Mais avant, je m'inscris dans la loterie encore. Et 2015, j'ai reçu un mail en disant, voilà, monsieur, vous êtes choisi pour la loterie de Kona. Donc, une place pour un slot pour Kona 2015. Par contre, il faut faire de la même année soit un semi-Ironman ou un Ironman pour prouver que tu as la capacité. Et justement, cette année, je n'avais pas prévu de semi-Ironman officiel. J'avais fait plusieurs non officiels, mais il fallait faire un officiel. Donc, je me suis dit, maintenant, je dois... Donc, je suis allé aux États-Unis, à Orlando, pour faire le semi-Ironman d'Orlando. Et j'ai le complété, c'était vraiment chouette. J'étais en contact avec, je connaissais personne là-bas. Et en fait, j'ai rentré en contact avec un gars qui avait un club, Lakeland Shark, ou Lake Shark Land, quelque chose comme ça. Et lui, il m'a invité chez lui, donc on était chez lui, il m'a prêté son vélo et, ok, tu vas faire la course. J'ai complété la course en dessous de 5 heures, donc c'est vraiment tranquille pour voir, seulement pour compléter, être sûr que je ne vais pas crever. Et voilà, j'ai eu le slot pour Kona. Donc, mois d'octobre, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement. Mois d'octobre, j'étais fait mon premier Ironman, qui c'était le Ironman à Kona, au Hawaï. C'est ma deuxième fois. Je suis venu avec la famille. On a fait un super voyage. On arrivait 10 jours en avance. Et en fait, il faisait tellement chaud que je ne savais même pas sortir d'appartement. Il faisait 43 degrés. Et je me disais, je dois faire un marathon avec le soleil comme ça. Mais je suis allé, j'ai complété. Je fais, je pense, 11h36, c'est pas un super temps, mais quand même, j'ai respecté bien la distance. Et finalement, j'arrive bien à la ligne d'arrivée. Voilà. Quand j'ai terminé le vélo, je me suis dit, putain, maintenant, il y a quelqu'un qui me demande, monsieur, tu veux quelque chose? Donc, il y a beaucoup de volontaires. Et là, je me demande, ouais, je veux savoir comment est-ce que je veux courir un marathon maintenant. Mais là, je suis allé courir. Donc, du coup, je termine le marathon, je termine bien, j'y arrive. Sur la transition, je demande pour prendre mes affaires parce que j'avais ma femme qui attendait à la maison. Donc ils ont donné tous mes vélos, mes affaires. Les gens rentraient et moi je partais à la maison parce que j'avais encore 7 km pour arriver dans l'appartement qu'on avait loué. Et donc j'arrive chez moi et ma femme dit ouais, ça va, t'es bien arrivé, t'es en forme, Tout marche encore? Oui, non, ça va, ça va, ça va. Et sûr? Non, sûr, sûr, sûr. Mais alors, j'avais ma petite fille qui avait moins de 10 mois. Elle a dit, alors, ch change la couche d'Olivia parce que. Donc, ça, c'est vraiment la vie normale, ça continue. Donc, on a fait l'Ironman. Lendemain, on était se balader, faire de hiking avec les enfants. J'avais encore mes numéros dans le bras parce qu'avec le soleil, on reste, même si on lève le numéro, il reste là-bas. On a passé des heures sous un soleil de 43 degrés. Donc, j'avais mon numéro pendant quelques semaines dans le bras. Et voilà, donc 2015, j'ai fait l'Ironman. Et c'était une année vraiment spéciale. J'ai beaucoup m'entraîné. J'essaye de toujours enchaîner des triathlons avec des voyages touristiques. Donc, comme j'avais déjà raconté, en Amérique latine, on a bien se baladé au Hawaï. Et là, en fait, à cette époque-là, je commençais à faire aussi des marathons. Donc, il faut toujours un peu changer, un peu bouger, explorer. Donc, je commençais à faire des marathons. Il y a 2017, je me suis qualifié à marathon de Boston. Donc,
Ah.
en cherchant toujours en dessous des 3 heures. Et donc là, j'ai qualifié. Et 2018, j'étais fait Boston. Donc, c'était aussi un voyage de deuxième lune de miel. Je suis allé avec ma femme. Pour la première fois, dès qu'on avait les enfants, on a réussi. Mes parents sont venus depuis le Brésil au Pérou pour rester avec les enfants. On est allé à Boston. Et moi, j'ai fait 2018 le marathon de Boston. Très intéressante aussi, le voyage, le marathon et toujours les sports. Donc, les sports pour moi, vous avez déjà compris, c'est profiter aussi, voyager, connaître. C'est toujours une excuse pour sortir et pour voir quelque chose.
Wow. Bah, ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on revienne justement dans l'épisode de demain sur ton autre passion qui est liée au sport aussi, mais qui est plutôt au niveau mécanique. Et comme ça, on pourra passer en revue l'histoire sportive de Ivan Veloso.
On connaît maintenant Ivan, le triathlète, ou en tout cas le sportif, et on va découvrir demain Ivan l'ingénieur.
Super, à
À
demain.
plus, ciao,
À
ciao.
demain.
Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!